Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La situation actuelle au Liban est encore bien pire que la situation qui existait à l'issue de la guerre civile. Un cri d'alarme de la présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan, vient de se rendre au Liban. Elle sera l'une de nos invitées. L'Organisation mondiale de la santé craint une propagation du choléra en Syrie. L'OMS évoque un risque très élevé. L'Union européenne appelle à l'arrêt des violences entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La France va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Le logement représente un tiers du budget des ménages en France. Nous y reviendrons avec Amine Saha, élu indépendant à la Courneuve, vice-président de l'Association des élus de France. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, extrait de votre édition. Emmanuel Macron annonce le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie. Une consultation en vue d'un possible nouveau cadre légal d'ici la fin 2023 en France. Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est mort. Il était âgé de 91 ans. Regard sur la situation des enfants aujourd'hui au Liban. Le Liban en proie à une très grave crise, notamment économique. La nouvelle présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan, vient de se rendre dans le pays. Adeline Hazan, qui a accordé un entretien à Radio Orient.
Je suis présidente d'UNICEF France depuis 3 mois seulement et j'ai souhaité effectuer rapidement une mission en terrain à l'étranger et j'ai choisi le Liban parce que ce pays est dans une situation absolument dramatique et je trouve que nous n'en parlons pas assez. En tout cas, en France, dans les médias, nous n'en parlons pas assez. Cela a été évidemment beaucoup évoqué au moment de l'explosion il y a 2 ans, le 4 août 2020, mais je trouve que les médias ne parlent pas suffisamment de la situation absolument tragique de ce pays et notamment, évidemment, des enfants de ce pays. Donc, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point ce pays se dirige vraiment, on peut le dire, vers le chaos. Les classes moyennes n'existent plus, il n'y a plus que des classes pauvres ou bien quelques familles encore qui vivent dans des conditions normales, mais les milliers d'enfants qui vivent dans ce pays vivent sous le seuil de pauvreté. Pour vous donner un exemple, les écoles au Liban ont été totalement fermées depuis 2 ans, notamment à cause de la crise sanitaire, mais aussi parce qu'il y a une difficulté majeure à trouver des enseignants. Pour vous donner une idée, à peu près 30% des enseignants ont quitté le pays depuis quelques années, 30% des médecins ont quitté le pays, et en fait, s'il n'y avait pas le rôle des ONG et de l'ONU, en l'occurrence d'une agence de l'ONU comme nous sommes à l'UNICEF, eh bien, ce pays serait dans un chaos encore plus grave. Nous avons justement pu assister avec plaisir à toutes les actions que déploie l'UNICEF auprès de ses enfants, que ce soit d'ailleurs dans les écoles, mais par une éducation informelle pour les réhabituer à l'école, ou bien une éducation à la santé, aux gestes basiques pour se protéger, notamment pour malheureusement les enfants qui, très petits, de 6-7 ans, qui travaillent dans les rues. Et pour vous donner là aussi une idée, nous avons croisé plusieurs enfants qui ramassent des bouteilles de plastique dans les rues et qui se font payer 30 centimes pour 40 kilos de plastique. Donc vous imaginez ce que ça veut dire, et que ces 30 centimes, eh bien, ils sont apportés à la famille pour essayer de contribuer à tenter de nourrir un peu la famille. Nous avons également visité, et j'y tenais beaucoup, ça me tenait à cœur, un camp de réfugiés syriens à Baalbek, ainsi qu'un camp de réfugiés palestiniens aux environs de Beyrouth. Et là aussi, nous avons pu constater à la fois les conditions de délabrement absolument épouvantables dans lesquelles vivent ces familles et ces enfants, et en même temps le travail incroyable que mènent les ONG, les agences de l'ONU pour là aussi apporter de l'eau, apporter de la nourriture et essayer de faire un minimum d'éducation informelle pour les enfants, pour leur apprendre, par exemple, à se laver les mains, à éviter de se faire agresser, tout simplement, et les gestes les plus basiques. Et malgré tout ça, par exemple, dans ces camps, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, donc les familles vivent dans le noir à la nuit tombée. Donc vraiment des conditions, je dois dire, encore pires que tout ce que j'avais lu ou imaginé.
Et c'est pourquoi vous avez lancé ce programme de sensibilisation à la promotion de la santé publique.
Absolument, absolument, de façon à ce que les parents comme les enfants puissent être un minimum soignés. Et notamment, nous avons contribué à la réalisation d'un hôpital mère-enfant extrêmement moderne, qui sera d'ailleurs le plus gros hôpital mère-enfant du Moyen-Orient, qui se situe à l'endroit d'ailleurs d'une maternité qui a subi les dégâts de l'explosion du port de Beyrouth il y a 2 ans et qui va être inauguré en octobre ou en novembre dans des conditions qui sont tout à fait enthousiasmantes. Et là aussi, il y a eu évidemment beaucoup de fonds des ONG et également beaucoup de fonds de l'ONU. Il faut savoir aussi que l'UNICEF apporte au Liban, contribue au Liban à 300 millions de dollars tous les ans, ce qui est énorme et ce qui aide évidemment beaucoup, beaucoup ce pays. Il faut savoir que tout ça s'inscrit également, alors bien sûr, vous l'avez dit, une crise économique et une crise sanitaire, mais s'inscrit aussi dans le cadre d'une situation politique extrêmement précaire, puisque là aussi, par exemple, il y a un Premier ministre, mais il n'y a pas de gouvernement. Il va y avoir des élections présidentielles au mois d'octobre, mais on ne sait pas du tout ce qui va en sortir. Donc tout ça sur un fond de situation politique extrêmement instable. Donc en fait, on a trois crises, une crise politique, une crise sanitaire, et une crise économique d'une ampleur sans précédent.
Et vous soulignez donc les effets dévastateurs de cette crise sur les vies des enfants et des effets notamment sur la santé mentale des enfants. C'est aussi un enjeu important.
Bien sûr, c'est un enjeu important pour nous. C'est un programme important pour nous parce qu'il va de soi, bien sûr, que des enfants ne sont pas allés à l'école du tout pendant 2 ans, qu'on a pu constater malheureusement une augmentation des violences intrafamiliales. Et puis dans les camps, par exemple dans le camp de réfugiés palestiniens que nous avons visité, qui est quasiment une ville, puisqu'il y a 45 000 réfugiés palestiniens, eh bien il y a de la violence, il y a des viols, et là aussi il y a toute une éducation pour les enfants à essayer de se prémunir de ces risques-là.
Les violences intrafamiliales, ce sont des femmes battues, des enfants battus. Comment est-ce que l'on peut agir concrètement face à cela?
Très concrètement, par exemple, dans ce camp de réfugiés palestiniens de 45 000 personnes, eh bien, il y a quelques îlots, si je puis dire, d'abord de paix et puis d'éducation, où justement l'UNICEF et ses partenaires, l'UNICEF ne travaille pas tout seul, l'UNICEF et ses partenaires ont pu justement installer des salles avec des activités qui ont lieu tous les jours, à la fois pour les enfants et pour les adolescents. Nous avons vu des cours qui sont adressés notamment à des adolescentes, de façon justement à pouvoir les former à des actions qu'elles-mêmes répercuteront dans leur vie de tous les jours et notamment dans d'autres camps où elles sont réfugiées.
Vous avez donc effectué à travers ce déplacement au Liban, ce premier déplacement dans ce pays en tant que présidente de l'UNICEF, un bilan pour évaluer l'impact de cette crise, de cette pauvreté de très grande ampleur. Qu'est-ce qui suivra suite à ce déplacement?
Nous avons justement d'abord félicité nos collègues de l'UNICEF du Liban. Nous nous sommes félicités aussi de l'importance de la collecte qui a eu lieu dans tous les pays en faveur du Liban. Et puis nous-mêmes en France, nous avions collecté au moment de l'explosion du port de Beyrouth à peu près une somme de 3 millions d'euros. Depuis quelques années, nous avons collecté au profit du Liban à peu près 9 à 10 millions d'euros ou de dollars, enfin peu importe. Et nous allons justement répercuter tout cela parmi les donateurs en France, les entreprises en France, nos bénévoles en France, pour leur dire, et je vais leur écrire dans les jours qui viennent, dans une lettre interne, pour leur dire que il faut absolument que cet élan de générosité qui a été formidable au moment de l'explosion du port de Beyrouth, eh bien, il ne s'arrête pas parce que la situation actuelle au Liban, elle est même encore bien pire que la situation qui existait à l'issue de la guerre civile qui s'est terminée en 1990 après avoir duré 15 ans.
La présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan. L'Organisation mondiale de la santé craint une propagation du choléra en Syrie. L'OMS parle d'un risque très élevé. La Syrie, où des dizaines de cas, dont plusieurs mortels, ont été signalés ces derniers jours dans plusieurs régions du pays. Une première depuis 2009. 6 Syriens, dont 3 enfants, sont morts de soif et de faim en essayant de traverser la Méditerranée. Ils étaient à bord d'une embarcation de fortune. Ces personnes faisaient partie d'un groupe de rescapés secourus au large de l'Italie. Le président égyptien en déplacement au Qatar, une première depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après 4 ans de rupture. L'Union européenne appelle à l'arrêt des violences entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le premier ministre arménien a annoncé le décès d'au moins 49 militaires au cours de violents affrontements entre les deux pays. La France va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Arménie dénonce une agression de son voisin. Les États-Unis se sont dit extrêmement inquiets concernant ces attaques. Emmanuel Macron annonce le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie, une consultation en vue d'un possible nouveau cadre légal d'ici la fin 2023 en France. La France où la législation interdit pour le moment l'euthanasie et le suicide assisté. La décision d'Emmanuel Macron a été annoncée après que le comité d'éthique a rendu son avis sur une euthanasie strictement encadrée. De nouveaux feux de forêt en Gironde, un incendie a parcouru 1300 hectares de végétation et de forêt à Somos. Les quelques 500 habitants de la commune ont été évacués. Ce nouveau sinistre survient dans un contexte de forte chaleur. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Amin Saar, élu indépendant à la Courneuve, vice-président de l'Association des élus de France. Le logement représente aujourd'hui un tiers du budget des ménages en moyenne. Qu'attend Amin Saar du nouveau ministre en charge de ce sujet, le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein? Amin Saar.
Alors c'est un sujet qui est très peu abordé, notamment par la classe politique, puisque c'est un sujet très technique, finalement. Donc souvent, d'abord parce que les gens n'y comprennent pas grand-chose, et puis dans l'univers médiatique, ça intéresse finalement très peu, notamment les journalistes. Et donc c'est un sujet qui a souvent tendance à passer un peu à la trappe, mais c'est un sujet extrêmement important, notamment dans les territoires que je connais bien, où on connaît une crise du logement absolument énorme, avec il manque en Seine-Saint-Denis 150 000 logements, on a 150 000 demandeurs de logements en attente, on a un développement de l'habitat indigne qui est absolument exponentiel, on a tout un tas de difficultés comme ça, le taux des impayés aussi qui a explosé à la fois avec la crise mais qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, et donc c'est un sujet qu'il va falloir prendre à bras le corps. Je pense que sur le mandat précédent, le gouvernement a manqué à sa tâche. Je le regrette, puisqu'il y a un certain nombre de mesures. On a parlé des APL, ça a été très souvent évoqué. Mais il y a aussi notamment la mise en place de la RLS, la réduction de loyer de solidarité, hein, qui a imputé directement les bailleurs sociaux, notamment en les privant d'un certain nombre de fonds propres qui leur permettaient à la fois de mieux entretenir leur patrimoine, de construire davantage de logements. Et donc, je crois qu'Olivier Klein est assez connaisseur du sujet, puisqu'il est maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, qui connaît ces difficultés-là. Il a été par ailleurs président de l'ANRU pendant plusieurs mois. Et donc, je crois qu'il saura défendre le logement social, en tout cas, je l'espère.
Qu'est-ce qui empêche finalement aujourd'hui de construire du logement social? Ce sont des difficultés techniques, des normes, un manque de volonté politique. Qu'est-ce qui l'explique?
Alors il y a plusieurs choses. D'abord, oui, du point de vue de la réglementation, on a une réglementation qui est de plus en plus complexe, qui a rendu difficile la sortie de terre d'un logement. Voilà, qu'il soit social ou non par ailleurs, hein, les promoteurs connaissent la même difficulté. On a aussi un certain nombre de maires qui sont... qui parfois font un peu de zèle, il faut le dire, empêchent la construction de logements parce que pour tout un tas de difficultés qui peuvent être légitimes parfois parce qu'il manque d'équipement public et donc il y a aussi un frein de ce côté-là. Mais le premier frein, c'est d'abord les moyens des opérateurs et notamment des bailleurs sociaux qui ont été privés de subventions de la région, qui ont été privés de fonds propres par la mise en place d'un certain nombre de règles ces dernières années. Et donc oui, toutes ces mesures ont finalement été un peu contre-productives pour permettre que le logement se développe davantage dans le pays.
Si on construisait davantage, vous avez le sentiment que l'économie française aussi se porterait mieux ?
C'est l'une des pistes qui pourrait être empruntée pour permettre une relance de l'économie. On a parlé de tout un secteur des énergies renouvelables qui peut être créateur d'emplois, mais je crois que le logement, et notamment la rénovation des logements, puisque on doit aller vers des logements de basse consommation, mieux isolés, etc., pour permettre notamment de réduire la facture des ménages sur l'énergie. Et donc, tout ce secteur-là, je crois, peut permettre une relance de l'économie si on s'y intéressait plus sérieusement.
Amine Saha, élu indépendant à la Courneuve, vice-président de l'Association des élus de France. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. L'arrivée d'une nouvelle vague de Covid-19 semble se profiler en cette rentrée, le nombre de contaminations quotidiennes étant constante, augmentation depuis une semaine. Selon Santé publique France, cette hausse s'élève à 33% de cas. Cette augmentation ne se répercute pas encore sur les services hospitaliers. Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est mort. Il était âgé de 91 ans, figure de proue de la nouvelle vague. Jean-Luc Godard a signé des films cultes comme Le Mépris, Pierrot le Fou ou encore À bout de souffle. 9 de ses films ont été cités en sélection officielle à Cannes, 6 à la Mostra de Venise. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.